cher Mitterrand, sur le sujet de la transformation des métiers et des compétences culturelles au regard des impératifs de transition écologique. Je suis Nathalie Miel, je suis directrice du DAMNÉ et je suis donc accompagnée de ma collègue Mathie Raffano qui dans mon équipe s'occupe des sujets d'innovation et de transformation. Je vais commencer par vous situer ce qu'est le DAMNÉ, vous expliquer ce qui nous a amené à nous intéresser au sujet de transition écologique, comment ça t'intéresse à profondément réorienter notre projet stratégique et notre projet associatif. Qu'est-ce qui finalement nous a mené à nous intéresser au sujet des compétences et des métiers et comment on a choisi d'aborder la question via une démarche prospective collaborative que Mathie vous détaillera. Donc elle vous présentera la méthodologie, les grands résultats et enseignements de cette démarche et puisque cette dynamique a pu produire en termes de dispositifs concrets. Et puis pour terminer, j'essaierai de vous donner envie de nous rejoindre dans l'aventure à venir, puisque une saison 2 commencera l'année prochaine sur un autre thème. Donc pour commencer, qu'est-ce que le DAMNÉ ? Donc le DAMNÉ, c'est le cluster qui fédère les acteurs des industries culturelles et créatives en Auvergne. On est une association, on a été labellisé grappe d'entreprise à notre création, puis reconnu pôle territorial de coopération économique en 2014. La coopération étant vraiment chevillée dans notre mode de fonctionnement. On intervient en transversal des ICC, c'est-à-dire que nos 75 adhérents sont à la fois des acteurs de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de l'événementiel, de la communication, du livre, des médias, du design, de toute taille, puisque on fédère à la fois les entrepreneurs qui sont en freelance jusqu'aux plus gros acteurs de notre territoire. Comme si vous connaissez un peu l'Auvergne, le Festival international du court-métrage ou la scène nationale par exemple. On accompagne également la création d'entreprises dans ce secteur des industries culturelles et créatives. Ça passe par une proposition de différents dispositifs, dont un incubateur. On pilote un groupement d'employeurs, on est organisme de formation, on organise des événements de façon régulière. Entre autres activités que je n'ai pas du tout le temps de vous détailler aujourd'hui, mais qui sont structurées autour de 5 grands axes, qui sont 5 mots-clés, fédérer, développer, promouvoir, innover et transformer, qui va être l'axe qui va plus particulièrement nous intéresser aujourd'hui. Derrière ces 5 grandes missions, il y a des valeurs très fortes qui sous-tendent notre projet. La première, c'est celle de la coopération, de la solidarité et de l'entraide, qui est le fondement de la relation que nous pouvons avoir avec nos adhérents et nos partenaires. Un principe de co-construction, que ce soit de notre projet associatif, des actions qu'on porte, mais aussi de partage des ressources et des connaissances qui guident notre méthodologie de travail. Et puis enfin, un projet qui est articulé autour d'une stratégie de responsabilité sociale et environnementale qui est particulièrement exigeante et qui se veut exemplaire. Donc pour revenir à sa genèse, le DAMNÉ a été créé en réponse à un état des lieux qui a été mené sur le territoire auvergnat, état des lieux qui a fait ressortir un fort dynamisme au début des années entre 2005 et 2010 en termes de création d'entreprises dans le champ culturel et créatif. Mais le manque criant d'outils pour permettre d'accompagner la structuration et le développement de ces nouveaux acteurs économiques. Donc dans la première partie de sa vie, le DAMNÉ a vraiment été pensé comme un outil au service du développement économique et de la compétitivité des entreprises du secteur, avec par exemple des propositions d'actions qui pouvaient être tournées vers la promotion des membres auprès de clients potentiels ou encore des services dédiés au développement de la performance ou au développement commercial. Pour autant, les acteurs qu'on fédère, pour beaucoup d'entre eux, sont porteurs de convictions fortes qui ne se retrouvaient pas forcément dans le projet du DAMNÉ, ce qui a doucement évolué au fil du temps et ça a commencé en 2019. En 2019, donc comme je le disais, je parlais de coopération, de co-construction des projets. En 2019, l'équipe et le conseil d'administration sont réunis pour imaginer le projet du DAMNÉ pour la période 2020-2023. Et puis, au milieu de ce temps où nous aussi, on utilisait plein de post-it, on a pas mal de post-it aujourd'hui, nous aussi on fait ça. Une question est posée, cette question c'est et on fait quoi sur les sujets de développement durable ? Bon, bah là, la question elle est posée, puis sur le coup, personne n'a la réponse. mais la graine, elle était plantée quand même, puisque la question, elle avait été posée. Et puis, finalement, la réponse, elle est venue assez naturellement. Enfin, notre boulot, c'est quoi? Notre boulot, c'est d'accompagner. Donc, sur ces questions-là, de la même façon, il faut qu'on accompagne. C'est en 2021 qu'on a commencé à se positionner sur ces nouveaux sujets. Tout d'abord, par une conviction partagée au sein de l'équipe. Je regarde Mathie parce que ça s'est beaucoup discuté autour du café. Et puis par une opportunité de financement, puisqu'on a pu financer un accompagnement collectif de 10 entreprises adhérentes sur le sujet de la RSE, comment on développe une stratégie RSE, qu'est-ce que ça veut dire quand on est une petite structure dans le secteur culturel, comment on rend ça concret et comment on se dote l'outil de pilotage et d'évaluation sur le sujet. Cet accompagnement, on y a participé nous-mêmes, ce qui nous a permis de nous doter d'une feuille de route claire et ambitieuse sur cette question de la RSE et très vite d'affirmer une volonté d'être exemplaire et inspirant, à la fois pour nos adhérents, mais aussi plus largement pour les acteurs culturels et créatifs. J'ai pas du tout passé la slide. Hop. 2022, on poursuit le sujet via une programmation d'un cycle de rencontres qu'on a intitulé « Entreprises créatives innovantes et durables ». Le rapport décarbonant la culture a été sorti peu de temps avant, donc on a commencé par le présenter. Et puis, en tirant le fil, on a traité différents sujets. Sur notre territoire, on a la chance d'avoir le trio Diego Landivar, Emmanuel Bonnet et Alexandre Monin, qui n'est plus à Clermont-Ferrand, mais voilà, Diego était là hier, avec qui on a commencé à aborder les questions de redirection écologique avec nos adhérents. Et donc tout au long de l'année, on a eu ce cycle qui nous a amené à nous rendre compte que, en fait, il y avait beaucoup d'intérêt, il y avait toujours beaucoup de monde quand on organisait ces temps de rencontres, mais que finalement, quand on y regardait d'un peu plus près, c'était un peu toujours les mêmes, et les gens qui étaient là, c'était les déjà convaincus. Et ça voulait dire qu'il nous manquait quelque chose pour la phase de sensibilisation. C'est là qu'on a voulu créer la fresque de la culture, donc qui est un dispositif qu'on a co-créé avec les shifters et qui, dès la première année en 2023, a été diffusé aux plus de 500 professionnels. Au fil du temps, du côté du damier, les enjeux de transition écologique, ils ont complètement imprégné notre projet. Ça a commencé à être partout. Nos événements ont commencé à être éco-conçus. On a construit de nouveaux programmes de formation jusqu'à finalement porter une transformation de notre projet associatif en créant un nouvel axe qui s'appelle Transformer en 2024 et qui est vraiment un changement de posture et qui est l'affirmation du damier comme outil au service de l'accompagnement à la transformation de la filière. Ce qui d'ailleurs n'est pas du tout une posture antinomique avec la posture initiale de la création du damier parce qu'on est profondément convaincus que les acteurs culturels qui ne seront pas capables d'engager ces dynamiques de transition mettent en péril leur pérennité. Donc aujourd'hui, notre projet incarne un axe transformé au sein duquel on déploie différentes propositions. Vous pouvez en voir une présentation à l'écran. Et toutes ces propositions, elles sont très liées entre elles. C'est parce qu'on a lancé la dynamique RSE, qu'on a créé la fresque de la culture. C'est parce qu'avec la fresque, on s'est rendu compte qu'il fallait aller plus loin que la sensibilisation qu'on a lancée un programme qui s'appelle Promo Climat, donc qui vise à doter les bénéficiaires de leur bilan carbone, à construire une stratégie climat et un plan d'action associé. Et c'est parce que la stratégie climat, comme son nom l'indique, questionne la stratégie des structures, qu'on s'est dit qu'il fallait aller encore plus loin. Et c'est ce qui nous a amené à lancer la démarche Déjà Demain, qui est une dynamique prospective dont l'objectif est d'identifier, d'anticiper les mutations à venir dans le champ des industries culturelles et créatives. Dans un premier temps, sur le sujet de la transformation des métiers, puisqu'on s'est bien rendu compte, via les accompagnements RSE, la promo climat, ces réflexions stratégiques, elles venaient impacter non seulement le projet de la structure, mais derrière les métiers des gens qui y travaillent, mais aussi d'autres sujets. Donc pour pouvoir mettre en œuvre ces plans stratégiques, il faut que les structures elles soient dotées des métiers et des compétences qui permettent de mettre en place ces plans d'action. Donc on a eu l'idée d'imaginer une démarche prospective collaborative pour travailler sur ce sujet. Pourquoi une démarche collaborative? Parce que l'envie a été très vite d'impliquer tous les maillons concernés pour avoir une réflexion systémique, pour prendre de la hauteur, pour impliquer les parties prenantes qui permettront de maximiser l'impact du projet à tous les niveaux. mais aussi, et on l'a un peu dit hier, parce qu'en fait, ces sujets de transformation, ils peuvent être brutaux et douloureux à aborder tout seul. Et que de traiter ces questions en collectif avec une démarche adaptée, c'est aussi pouvoir confronter des points de vue, créer du commun, faire converger les énergies et mettre un peu de joie dans tout ça. Il y a l'adjectif joyeux qui était cité tout à l'heure et voilà, on y tient de notre côté. Donc sur cette question des métiers, on a constitué un premier panel de contributeurs dans lequel il y avait à la fois des entreprises culturelles et créatives, des artistes, mais aussi les acteurs de la formation initiale, de la formation continue, les acteurs de la recherche, les OPCO, des collectivités, France Travail. L'idée étant vraiment de produire du commun qui pourra servir à chacun à son échelle. Et puis finalement, on s'est rendu compte que, il y a la petite pelote qui est là, parce que c'est Mathie qui a illustré le fait que je dis tout le temps qu'on continue de tirer fil, et que quand on s'attelle à cette question, on se rend compte qu'il y a encore plein d'autres sujets qui arrivent derrière. On en a parlé hier, la nécessaire transformation des modèles économiques, mais aussi la nécessité de repenser les modes d'organisation, les modes de gouvernance. Et c'est pour ça qu'en fait, on a finalement acté le fait que déjà demain, c'est une démarche collaborative par saison thématique. Une saison dure à peu près 3 ans. La première saison était sur ce thème des métiers et des compétences. Il y aura une prochaine saison à venir et je vous laisse sur ce suspense en laissant la parole à Mathie qui va vous expliquer la construction concrète de ce programme.
Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je vais vous parler un peu plus du processus et ensuite des résultats, des grands enseignements qu'on a tirés de cette première saison thématique. Donc en fait, quand on a commencé à construire la démarche Déjà Demain et cette première saison, nous, du côté du Damier, on avait déjà certaines idées très précises en tête. La première, c'était donc, comme le disait Nathalie, pouvoir construire un collectif pluridisciplinaire autour de cette démarche. La deuxième chose, c'était de pouvoir utiliser la méthode prospective créative. Et la troisième chose, c'était de pouvoir rythmer la démarche avec un découpage très spécifique qui est représenté sur l'écran. Mais en tout cas, d'avoir un atelier de lancement, différentes phases d'ateliers de production où le groupe allait produire des réflexions individuelles et collectives. Et enfin, terminer la démarche par une phase de restitution publique. Cette première saison, elle a également commencé avec une hypothèse de départ du côté du Damier. Cette hypothèse, elle était basée sur des observations de terrain. Ça fait écho à ce que disait Nathalie juste avant, mais on portait d'ores et déjà des dispositifs sur les questions d'accompagnement à la transition écologique. Et donc, il y a eu différentes observations qui nous ont fait penser que, dans tous les cas, la transition écologique allait faire apparaître de nouveaux métiers, mais allait aussi faire nécessairement disparaître certaines professions. Donc ça, c'était notre hypothèse de départ. On avait du coup un objectif d'arrivée. Où avec la démarche, l'idée c'était de pouvoir disposer de la matière nécessaire sur laquelle s'appuyer pour que nous, après du côté du Damier et du côté des membres qui composaient le groupe, on puisse créer de nouveaux dispositifs qui visent à accompagner les professionnels sur les évolutions et les mutations qu'on aurait identifiées collectivement. Donc ça voilà, c'était un peu le cadre de départ. Et pour construire de manière plus précise la démarche, et parce que notre objectif c'était d'amener vraiment la méthode de prospective design, on s'est fait accompagner par une designeuse qui s'appelle Marie-Cécile Godwin, qui est spécialiste du design thinking, désolée pour l'accent, et qui est aussi spécialiste de l'utilisation des outils de prospective comme principe de redirection écologique. Elle a notamment beaucoup travaillé avec Diego Landivar, etc. Enfin, le fameux trio, justement. Et donc, on s'est entouré de Marie-Cécile pour la construction concrète des ateliers et en se basant sur une méthode qu'elle appelle la méthode du Roomba, donc qui est ce petit aspirateur automatique, où en fait, Marie-Cécile explique que, au début, le Roomba, il part dans tous les sens, dans toutes les directions. Il a une mission, il va nettoyer une pièce, une maison, et puis il rencontre des obstacles, il rencontre des murs, des plaintes. Et finalement, il atteint son objectif, la maison est nickel, chrome, mais en fait, en plus de ça, il a obtenu une cartographie hyper fine de son terrain de jeu. Et donc du coup, c'est avec cette philosophie et sur la base de cette méthode que nous avons construit plus concrètement les ateliers. Je vais passer rapidement, parce que si je vous fais la totale, ça va être très très long. Mais du coup, de manière plus concrète, on a eu une première phase de lancement avec un atelier collaboratif qui était centré sur la question des troubles et des incertitudes ressenties par les professionnels face aux enjeux de transition écologique. Pour nous, la notion de trouble, et notamment sur les notions de redirection écologique, elle est hyper importante parce que c'est un point de départ pour aller chercher justement et tirer le fil de ce qu'il y a derrière par rapport à la transition écologique. Donc ça, c'était le premier atelier. Et ensuite, on a démarré plus concrètement la phase de production et des ateliers de production avec 4 ateliers, presque un par mois sur l'année, sur la deuxième partie de l'année 2024. Et le premier atelier, on est reparti de ces fameux troubles, des attachements qu'on avait identifiés pour ensuite identifier les impacts et ce qu'on appelle les chocs par lesquels la filière des ICC, donc industrie culturelle et créative, est actuellement percutée et se répercuter dans le futur face au changement climatique. Avec ces enseignements-là, on a ensuite décidé de construire l'atelier 2 et 3 sur un système de binôme et sous la forme surtout d'un sprint design créatif, avec une première étape sur l'atelier 2, toujours de repartir des enseignements d'avant, donc de reprendre les chocs identifiés, les impacts identifiés, pour construire des scénarios prospectifs où on pourrait, où les professionnels pouvaient se projeter, différents types de scénarios, des scénarios dans un premier temps plutôt fun et décalés, histoire de libérer la créativité, des scénarios très réalistes et pragmatiques, et enfin des scénarios ultra pessimistes. C'est important. La dernière étape, et donc c'était pour sur l'atelier 3 de ce sprint design créatif, c'est que de ces scénarios-là, on a fait émerger les besoins qui ressortaient des professionnels en termes d'accompagnement, ce dont ils avaient besoin face à la transition écologique. Et afin d'atterrir plus concrètement sur ce que nous espérions avec la démarche à ce moment-là, on a terminé avec un quatrième atelier où on a vraiment travaillé sur la projection de nouveaux métiers à horizon 2050, la projection de nouvelles compétences et la modification des compétences, et surtout l'idéation collective, autour de nouveaux dispositifs. Alors je vais maintenant vous livrer quelques enseignements et résultats en essayant d'être un peu synthétique. On est passé par différentes phases qui globalement représentent les différents ateliers. Je vous l'expliquais lors de l'atelier 1, on s'est concentré vraiment sur ce qu'on appelle les impacts et les chocs. Et à chaque étape de la démarche, en fait, différents résultats ont émergé. Donc sur la question des chocs et des impacts, on en a identifié plusieurs. Des impacts et des chocs d'ordre économique et financier dans un premier temps, avec notamment une augmentation des coûts et le manque de moyens financiers des structures et des acteurs culturels sur des projets liés à la transition écologique. Des impacts et des chocs d'ordre réglementaire et politique, avec notamment l'apparition de lois, d'injonctions, bien souvent contradictoires, et de réglementations. Des impacts et des chocs en termes de ressources, de matières premières, mais aussi en termes de technologie. Et là, on fait plutôt référence à des questions de disponibilité, mais aussi d'accessibilité, donc avec des enjeux sociaux derrière. Et enfin, des impacts et des chocs d'ordre réputationnel et de marché. Et là, on vient toucher au fait que les acteurs culturels et créatifs ont un risque potentiel d'exclure ou de perdre la confiance de certaines de leurs parties prenantes, par exemple leurs financeurs ou leur public, ce qui pourrait entraîner finalement des dommages à l'image des acteurs culturels, à leur visibilité et finalement à leur pérennité. En ayant identifié ces impacts et ces chocs, on s'est rendu compte qu'il y avait des tensions plus profondes qui émergeaient, donc c'est la brique du milieu. Donc des tensions en termes de gouvernance avec des questions clés, qui décide, à quelle échelle, selon quels critères, et ce qui impliquait le fait que la transition écologique implique et impliquera forcément un moment de retravailler la question de la répartition des pouvoirs au sein des organisations culturelles et créatives. Des tensions en termes de financement aussi, qui montrent que les modèles traditionnels qu'on a dans le secteur culturel sont plutôt adaptés et qu'il va falloir réinventer des modèles pour financer les nouveaux cadres financiers pour financer la transition écologique et l'évolution des métiers. Des tensions du coup aussi en termes de technologie. Là, on est en débat ce qui a été discuté ce matin, le fait que le numérique peut être un levier d'action, mais aussi de fragilisation à la transition écologique, donc toujours sur des questions d'accessibilité, d'empreinte et aussi de dépendance. D'autres types de tensions, une liée à la collaboration. Alors là, on ne vient pas remettre en cause le fait de travailler ensemble ou entre secteurs. On vient juste remettre en question, ou en tout cas mettre le point et l'intérêt sur la collaboration. Elle n'a de sens que si elle est porté et coporté avec des valeurs partagées et s'il y a une vraie forme de réciprocité. D'autres problématiques liées à la sensibilisation, alors on le sait, elle est importante aujourd'hui, elle sera toujours importante demain, mais elle ne sera pas suffisante. Ce qu'on a besoin et ce dont ont besoin les professionnels, c'est de passer le cap des chiffres à l'action. Et enfin, d'obtention liée aux ressources humaines, et c'est celle qui nous a le plus surprise parce qu'elle est, elle est un peu flou en dessous, c'est celle liée aux ressources humaines. On voit les professionnels et les équipes s'épuisent dans le secteur culturel et créatif. Et on a fait une petite analogie avec les ressources naturelles qui, du coup, à l'image des ressources naturelles, les ressources humaines ne sont pas infinies. Donc avec un soin particulier. Donc à l'heure actuelle, au regard de ces problématiques et de ces impacts, les professionnels ont fait remonter certains besoins qui sont totalement liés pour le coup. Donc des besoins en termes de moyens financiers et humains, donc pour accéder à des financements dédiés pour soutenir des initiatives ou des projets véritablement transformatifs. Et du coup, le fait de pouvoir renforcer les équipes sur ces questions-là et dédier du temps, et un temps très important qui ne soit pas en plus du reste, donc avec des fonctions vraiment dédiées. D'autres besoins, développer des ressources, des outils concrets et surtout des formations avec des contenus qui soient adaptés aux réalités terrain et aux différents secteurs et métiers de la culture. Les professionnels ont également fait remonter la volonté de pouvoir lancer des expérimentations pour pouvoir tester des projets, des solutions. Et derrière ça, ce qui se cachait également, c'était donc le travail en collaboration et en coopération et pouvoir favoriser un engagement beaucoup plus fort de leurs parties prenantes au sein de leurs écosystèmes. Et encore une fois, derrière ça, ça a également fait remonter un autre type de besoin qui est la volonté et la nécessité que l'ensemble des acteurs puissent se mettre en réseau et dialoguer avec des espaces de concertation dédiés. Finalement, l'ensemble de ces impacts, de ces chocs, de ces problématiques et des besoins, on a mouliné tout ça collectivement et on s'est aperçu qu'il y avait trois types de tendances d'évolution des métiers culturels et créatifs vers lesquels on allait tendre. La première tendance, c'est l'émergence de métiers spécialisés centrés vraiment sur les enjeux techniques et stratégiques de la transition écologique. Petit exemple, dans le spectacle vivant, sur les questions de scénographie par exemple, on pourrait voir émerger un nouveau métier de responsable de matériaux durables, par exemple. Une deuxième tendance sur l'évolution des métiers, le développement de métiers hybrides. Donc là, l'idée, c'est de prendre les métiers traditionnels, ou en tout cas existants dans le secteur culturel, mais qui intègrent de nouvelles dimensions écologiques et sociales comme des compétences de base et nécessaires. Donc un deuxième exemple, sur le secteur de l'événementiel, on pourrait avoir un ou une responsable de production événementielle qui soit aussi en totale maîtrise des enjeux d'éco-conception et d'éco-production. Et enfin, la dernière tendance, qui nous plaît beaucoup du côté du damier, qui est l'apparition de métiers beaucoup plus transversaux et systémiques avec l'émergence de fonctions purement dédiées à la coopération, à la mutualisation entre secteurs et territoires. Je vous le disais tout à l'heure, notre objectif au damier lorsqu'on a lancé la démarche, c'était d'avoir la matière nécessaire avec cet objectif de créer des dispositifs pour accompagner la montée en compétences des professionnels du secteur culturel. Et de ce fait, les différents résultats nous ont conduit à identifier différentes typologies d'accompagnement et de dispositifs à mettre en place pour répondre à l'ensemble des besoins qu'on avait collectivement identifiés. Avec notamment, alors vous avez le détail là, mais notamment la création et la diffusion de ressources et d'outils pour accompagner concrètement les professionnels, de la formation pour renforcer, comme on l'a vu par rapport aux tendances qu'on a identifiées, la montée en compétences sur des compétences spécialisées et ou transversales, le fait aussi de pouvoir retravailler les systèmes d'organisation et de management pour favoriser des nouveaux modèles qui soient plus attentifs au capital humain, et enfin le fait de pouvoir développer des expérimentations intersectorielles qui puissent favoriser la coopération justement entre les acteurs, les secteurs et les territoires. Et donc à l'issue de la démarche, donc ça c'était en 2024, donc on est ressorti début d'année 2025 avec toute cette matière et la volonté d'avancer et nous de construire des dispositifs. Donc on poursuit ce travail depuis janvier 2025 sur comment on met en place des dispositifs concrets pour accompagner l'évolution des métiers et des compétences culturelles. Alors du côté du damier, on travaille encore sur trois types de dispositifs. Un premier atelier qui s'appelle l'atelier Impact et Choc, C'est un atelier collaboratif qui vise à faire réfléchir concrètement les professionnels et de manière prospective à la manière dont leurs métiers vont se transformer face à un choc écologique qu'ils pourraient vivre. Un deuxième dispositif qu'on va normalement lancer à la rentrée ou en tout cas à la fin de l'année 2026, c'est un accompagnement collectif sur la thématique de RH et transition, où là l'objectif c'est d'accompagner différentes structures culturelles à identifier leurs impacts face à la transition écologique, à identifier les besoins qui en découlent et à traduire l'ensemble en matière d'emploi, de recrutement, de formation et de compétences. Et enfin, on a également, Nathalie le disait tout à l'heure, on est organisme de formation. Et donc depuis 2024, on a fortement développé notre catalogue de formation professionnelle, que ce soit en inter ou en intra-entreprise, sur les questions de transition écologique. Et sur la question des ressources et des outils dont je parlais tout à l'heure, on a aussi développé différentes ressources qu'on alimente au fur et à mesure. Donc des ressources naturellement qui viennent documenter la démarche et la première saison de Déjà Demain. On a un espace ressources sur le site internet du Damier où vous pourrez trouver justement les 4 synthèses intermédiaires qui documentent la saison 1. Un référentiel, un livrable final pardon, qui a été réalisé sous la forme d'un récit d'exploration. Et enfin, un référentiel sur lequel on travaille et qui est issu d'un projet collaboratif avec l'école de commerce de Clermont-Ferrand, avec un partenariat avec le master RH et mineur transition, où les étudiants sont venus interviewer des adhérents du Damier pour travailler sur la projection et l'écologisation de leur métier. Sur la question de ce que ça produit, et là du coup plutôt avec ma casquette de directrice du Damier, je le disais tout à l'heure, on a participé au premier accompagnement qu'on a lancé sur la RSE, on a participé à la promo climat, donc on a l'habitude d'être nous-mêmes bénéficiaires de nos propres dispositifs, ce qui nous permet de nous doter de feuilles de route, de monter en compétences. Donc on a participé, une partie de l'équipe a participé à Déjà Demain en tant que contributeur. Ce qui nous a permis aussi d'identifier les besoins en compétences qu'on avait en interne au niveau de l'équipe du Damier. Depuis 2024, là, l'équipe est montée en compétences sur différents sujets, par exemple sur la question de la comptabilité carbone, de l'accompagnement au changement de comportement ou encore de l'orchestration des coopérations. Tout ça vient aussi faire évoluer nos dispositifs, je le disais en introduction, on accompagne les porteurs de projets qui veulent entreprendre dans ce secteur d'activité. Le programme de notre incubateur a aussi été transformé de par ses résultats. Pour conclure et pour briser le suspense dans lequel je vous ai laissé tout à l'heure, une deuxième saison est en préparation pour l'année prochaine. Elle portera sur le thème des modèles économiques plus robustes, plus justes et plus résilients pour les ICC. C'est un sujet qui est d'urgence, dont il faut s'emparer dans le contexte de polycrise que nous vivons aujourd'hui et qui rend nos structures particulièrement fragiles. Aujourd'hui, les modèles économiques qu'on connaît dans le champ culturel ont montré leurs limites et il est temps de travailler ensemble à leur transformation. Donc il s'agit de repenser ces modèles pour les rendre plus robustes, plus justes et plus adaptés aux contraintes actuelles et à venir, ce qui nécessitera d'identifier les vulnérabilités et de travailler sur des modèles souhaitables. C'est une saison qui va se lancer dès l'année prochaine, donc on va recréer un groupe de contributeurs, si jamais il y a des gens parmi vous que ça intéresse de travailler avec nous sur le sujet, ce sera avec plaisir. Et puis, a priori, il est hautement possible qu'on ouvre cette saison thématique avec des journées d'accélération ICAR à Clermont-Ferrand sur ce sujet de la transformation des modèles économiques. J'espère qu'on aura le plaisir de vous y accueillir. Et pour terminer, vous pouvez retrouver ici le petit QR code qui vous donne accès aux ressources dont Mathilde vient de vous parler.